bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin.
Eh bien, oui, la grippe est polyvalente, vous le savez, et il s'agit en l'occurrence d'un vaccin monovalent, lui, c'est-à-dire spécifiquement dirigé contre la souche dite asiatique, virus A, Singapour 57. On dirait presque un nom de parfum, n'est-ce pas?
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Là, les problèmes qui sont les mêmes, et au contraire, les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. L'ombre d'une possible épidémie mondiale de grippe vient de recouvrir la planète entière à partir du Mexique, en un temps où la crise économique mondiale obsède d'autre part les esprits et les cœurs. Les autorités sanitaires internationales ayant vivement réagi, l'angoisse collective semble avoir beaucoup reculé. Mais pas sans qu'il soit abondamment rappelé que dans le passé, ce genre de fléau a toujours connu des phases de rémission, alternant avec des périodes de réveil. Et un peu partout, on a vu renaître des comparaisons avec la grippe dite espagnole de 1918. Née en fait non pas en Espagne, mais en Chine ou aux États-Unis, qui fut la dernière catastrophe sanitaire à dimension universelle, puisqu'elle a conduit au tombeau entre 30 et 50 millions de victimes, peut-être davantage, tout autour de la planète, à l'extrême fin de la Grande Guerre. C'est donc cet événement dramatique que nous allons tâcher d'éclairer avec Anne Rasmussen, maître de conférence à l'université de Strasbourg et active dans le cadre de l'historial de la Grande Guerre à Péronne. Il ne va pas s'agir seulement de dessiner l'histoire factuelle de la pandémie, mais de considérer la manière dont celle-ci a été comprise, interprétée, éventuellement dissimulée par les pouvoirs politiques, les autorités médicales et les opinions publiques en France et dans les pays occidentaux. Plus largement, c'est tout l'équilibre d'une société qui a pu paraître en jeu de la sorte entre réalité et fantasme, détermination et terreur, espérance et désolation.
Et Apollinaire, est-ce que sa force physique correspondait aussi à une nature violente?
Non, pas du tout. Oh, très doux. Oh, Apollinaire était très doux. Je crois au contraire, il aurait été plutôt un peu... Ah ben, on ne peut pas dire qu'il a été... Quoi? Parce qu'il l'a prouvé pendant la guerre, il s'est engagé tout de suite, c'était vraiment un type, au contraire, qui allait de l'avant. Mais, et ça n'est... aucune agressivité, toujours conciliant, très très gentil. Mais, c'est plus sérieux, tu comprends? Il était plus sérieux que les autres. Quant à sa taille, il avait une tendance à l'obésité. Enfin, il avait aussi, lui, des gros mollets, de grosses jambes, et puis un corps, un torse plein, un gros cou, une tête longue, et quelque chose de très aristocratique sur le visage.
Et c'est le jour où il t'a parlé de ces scénarios de cinéma que...
Oui.
C'est la dernière fois que
c'est tu l'as vu? C'est la dernière fois que je l'ai vu, là. Je l'ai pas revu après. Après, il a eu cette grippe espagnole qui l'a emporté. C'était une véritable épidémie à l'époque. La grippe espagnole avait des milliers et des milliers de victimes. Or, lui, il était en état de faiblesse après sa trépanation et il a vite été emporté par ça.
Anne Rasmussen, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai donné à entendre un témoignage du comédien Michel Balfour sur Apollinaire. Il en avait été l'ami. Et si j'ai souhaité, pour commencer, poser Apollinaire, c'est parce que du côté français, avec Edmond Rostand, il a été probablement un des deux personnages célèbres qui a été victime de la grippe espagnole. D'un côté, des individus pour donner chair et réalité à ce drame, et de l'autre, des statistiques impressionnantes.
Oui, c'est émouvant de commencer l'émission avec cette citation qui met en scène le personnage d'Apollinaire, dans la mesure où il s'agit, comme vous l'avez dit, d'une des personnalités victimes de la grippe, et donc qui émerge de la masse des morts anonymes. Avec d'autres, on cite aussi souvent quelques peintres comme Egon Schiele, par exemple, qui a une mort tragique avec toute sa famille, sa femme, son enfant, mort en quelques jours. C'est émouvant parce que Apollinaire meurt dans les tout derniers jours de la Grande Guerre.
Il n'a pas pu connaître l'armistice, il meurt au 202 boulevard Saint-Germain. Il y a une plaque encore au coin de la rue Saint-Guillaume qui évoque cette disparition-là.
Voilà, et en fait, la mort d'Apollinaire se passe au moment même où la joie de la victoire en France va s'exprimer dans la rue. Et Blaise Cendrars a décrit son amertume lors des obsèques d'Apollinaire, de ce sentiment très mêlé d'une euphorie de la population, conjuguée à cette immense détresse donc de la mort de son ami.
Les cloches servaient à la fois au glas et à l'expression de la joie dans ces derniers jours de la guerre, à la mi-novembre.
Voilà, et ça nous conduit à mettre en valeur la coïncidence de la grippe et de la guerre, et de ce moment de fin de guerre qui pour autant est un moment encore tout à fait déterminant dans le cours stratégique des opérations, et qui souligne aussi combien il y a deux figures de soldats. Il y a le blessé, qui a été déjà Apollinaire, qui a même été trépané, mais il y a aussi le malade, qui est souvent une figure moins héroïque, plus dévalorisée. Il est moins glorieux de mourir d'une maladie infectieuse lors de la guerre que de mourir au combat.
D'ailleurs, Apollinaire avait prévu qu'il mourût au combat, dans ses fameux poèmes à Lou. Si je mourais là-bas sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour, ô Lou, ma bien-aimée, et puis mon souvenir s'éteindrait, comme meurt un obus éclatant sur le front de l'armée, un bel obus semblable aux mimosas en fleurs. Il incarne cet égard la rencontre entre ce qu'a été cette épouvantable boucherie et d'autre part le fléau sanitaire. Pendant longtemps d'ailleurs, la guerre avait été présentée comme la première où la mortalité par maladie avait été relativement limitée par rapport au feu, si on compare aux guerres du 19e siècle.
En effet, c'est une vérité statistique que les services de santé militaire ont pu exploiter avec une certaine satisfaction, parce que, en effet, au cours du 19e siècle, les grandes campagnes militaires, les guerres napoléoniennes, la guerre de Crimée pour la France, les campagnes coloniales ont été marquées par une très grande importance de la mort des maladies infectieuses. C'est le typhus pour les campagnes napoléoniennes, c'est la variole pour la guerre de 70, c'est la typhoïde pour les campagnes coloniales, par exemple.
La Crimée avait été épouvantable à cet égard. C'est d'ailleurs là qu'est né le grand projet d'Henri Dunant et de la Croix-Rouge, à constater la manière affreuse dont on traitait les blessés. Or, en 14-18, il n'y a plus que 19 décès par maladie contre 100 au feu. C'est tout à fait inédit.
Oui, le typhus faisait partie vraiment du cortège des misères de la guerre, et épidémie et guerre étaient intrinsèquement liés. Or, pendant la Première Guerre mondiale, tout au moins sur le front occidental, il faut peut-être faire une part singulière au front oriental, qui est plus touché par les maladies infectieuses, en particulier par le typhus, mais néanmoins sans commune mesure avec l'importance de ces pathologies au XIXe siècle. Donc pour la première fois, effectivement, les maladies sont réduites à une portion plus congrue dans la mort des soldats. Alors bien sûr, il faut le rapporter aussi à la puissance de feu, c'est-à-dire que ce sont des données relatives, et si l'on meurt moins de maladies, c'est aussi que l'on meurt d'une puissance totalement inédite du feu, du combat, et que du coup les maladies sont peut-être amoindries dans ce bilan. Néanmoins, il faut mettre en valeur ce succès des services de santé qui parviennent à juguler ces grandes épidémies qui étaient traditionnelles et qui ne se produisent pas pendant la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas de typhus, il n'y a pas de choléra sur le front occidental. La typhoïde fait une percée en 1914 en France, mais elle est vraiment jugulée jusqu'à quasiment disparaître dans ses atteintes aux troupes
grâce
dès
au
1915.
Vaccin. Grâce au vaccin.
Grâce au vaccin.
Vous évoquez la fierté un peu sinistre des autorités médicales de l'armée française. On va relever ces chiffres. C'est une constante de cette histoire de la grippe espagnole et des maladies de la Grande Guerre qu'il faille constamment organiser une dialectique entre la réalité des choses et les représentations qu'on a pu en avoir, qui souvent déforment, modifient, déséquilibrent cette réalité. C'est à quoi nous allons nous attacher, Anne Rasmussen. Et à cet égard, le témoignage récent du professeur Ronnie Broman, en octobre 2005, est, je crois, révélateur. Écoutons-le.
C'est effectivement le décalage entre les mortalités objectives, mesurables aujourd'hui, et la mortalité que j'appellerais potentielle. On a peur du virus du Marbourg qui fait tous les 2-3 ans quelques dizaines de morts, pardonnez-moi, ça peut paraître très cynique, mais vous parliez de l'encéphalite japonaise, on pourrait parler du paludisme tout simplement, qui fait 2 millions de morts par an, régulièrement depuis des années, de la tuberculose, des maladies infectieuses ordinaires, banales, qui tuent entre 10 et 12 millions de personnes par an, et avec lesquelles nous sommes habitués à vivre. Enfin, ça ne semble pas faire le moindre scandale. Là, on a des chiffres cumulés. On sait, on connaît presque l'identité de chaque oiseau quelque part dans le monde qui décède dans des conditions suspectes. Et ça crée effectivement un effet d'angoisse, d'amplification de toutes les... dans toutes les populations susceptibles d'être menacées. Mais je pense qu'il est important de voir que les questions de santé sont abordées exclusivement, mais c'est déjà un progrès, me semble-t-il, enfin en tout cas c'est intéressant à voir, sous l'angle de la sécurité et pas sous l'angle de la menace pour la santé. Ça n'est pas la même chose. La menace pour la santé, c'est par exemple la mortalité mesurable. La menace sur la sécurité, c'est le potentiel épidémique, le potentiel mortifère, si l'on peut dire, contenu dans des épidémies qui ont l'air explosives et surtout globalisables instantanément, comme ça a été par exemple le cas pour le SRAS, qui a provoqué quelques dizaines de morts, mais ça se passait entre la Chine et le Canada, ça s'est répandu très rapidement, ça a été très rapidement contenu également, mais ça a marqué les esprits de façon durable.
Je rappelle à Anne Rasmussen que Ronnie Broman a été président de Médecins sans frontières, grand spécialiste des pathologies tropicales. Cette distinction entre les deux regards me paraît importante.
C'est tout à fait intéressant, cette dénonciation qui est assez coutumière chez lui de l'exagération de la menace pathologique, de la menace pandémique, comme si le danger n'était pas suffisant en lui-même et comme s'il fallait encore surajouter une menace en l'exagérant et en amplifiant le sentiment d'insécurité partagé par les populations. Il le fait aussi en évoquant d'autres théâtres actuels au Darfour ou sur d'autres lieux où peuvent se développer aussi épidémies et autres catastrophes sanitaires. Ce qui me semble très intéressant ici, c'est, comme vous le disiez, c'est le lien qu'il fait avec les représentations. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des données factuelles, mais en même temps, on ne peut les rendre intelligibles sans les associer aux représentations qu'en ont les populations. Et bien sûr, on peut dénoncer l'exagération qui est faite autour de ces menaces, mais on ne peut que prendre en compte le fait qu'il y a une perception des populations, qu'il y a une perception des responsables sanitaires qui concourent en fait à façonner l'événement, et il est indissolublement lié de considérer représentation et poids effectif de la menace.
Ce propos de Ronnie Broman est déjà vieux de 4 ans. Est-ce que si vous considérez la grippe qu'il ne faut plus appeler grippe mexicaine, mais grippe A, si vous la considérez aujourd'hui, est-ce que cette distinction vous paraît valide ?
Cette nouvelle épidémie ou pandémie a heureusement déjà décru, donc on a pu déjà aussi affirmer qu'il y avait eu peut-être un emballement
dans l'inquiétude,
un emballement peut-être des politiques sanitaires au niveau international de l'OMS, ou un emballement médiatique qui visait peut-être aussi à hypertrophier ce danger. En même temps, d'abord il est très difficile de juger a posteriori, puisque pour le moment en plus on est encore dans l'événement lui-même, mais il y a véritablement un phénomène d'exagération qui permet de prendre aussi les bonnes mesures sanitaires. Et de ce point de vue, on peut sans doute faire la comparaison avec la grippe espagnole, dans la mesure où les chiffres cumulés de la grippe espagnole sont mal connus, mais en tout cas ont été souvent rapportés en fait à d'autres chiffres, ceux de la mortalité dans la Grande Guerre. C'est-à-dire que la formule presque rhétorique que l'on connaît le mieux de la grippe espagnole, c'est d'affirmer qu'elle a tué en quelques mois seulement beaucoup plus que la guerre dans toute sa durée. Et évidemment, là, la comparaison est saisissante. Et il y a un effet de sidération de ces chiffres qui portent leurs fruits. Mais en même temps, on peut se demander s'il est vraiment légitime de comparer ces deux mortalités qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire, la grippe prend sens si on la compare à la surmortalité d'autres pandémies de grippe ou d'autres années en termes démographiques. Mais la comparer à la guerre a peu de sens. Néanmoins, dans les représentations, c'est tout à fait déterminant.
C'est peut-être parce qu'il y a une différence formidable entre la guerre et ses conséquences sur l'équilibre du monde et d'autre part la grippe. Il n'y en a pas eu tellement, une fois les morts accomplies, que dans les manuels d'histoire aujourd'hui, cette grippe espagnole dont vous nous dites la formidable ampleur en termes démographiques n'occupe que quelques lignes. Alors, aux États-Unis, on nous dit qu'il y aurait 550 000 personnes qui auraient été tués par la grippe, c'est-à-dire plus que tous les morts américains de la Première Guerre, de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Corée et de la guerre du Vietnam.
Oui, ce peu d'attention historique pour la grippe est très étonnant quand on s'intéresse à l'ampleur et que l'on considère l'ampleur réelle de l'événement, en termes démographiques au moins. Mais sans doute y a-t-il des éléments d'explication. Peut-être d'abord le fait que cette grippe a touché, du point de vue de la mortalité, a touché d'abord l'Asie, où les chiffres ont été constamment réévalués à la hausse de manière presque incroyable, hein, en Inde, en Chine, en Indonésie.
20 millions de morts dans le sous-continent indien, nous dit-on maintenant, peut-être 25.
Ce sont des chiffres qui sont constamment revus à la hausse, si bien que les dernières estimations globales envisageaient un bilan qui serait peut-être de 50 millions de morts, mais aussi peut-être fallait-il doubler ce bilan, soulignant ainsi que la grande incertitude quant aux chiffres, du fait surtout des lacunes dans les manières de recenser les populations de l'époque.
Comment peut-on faire ? Je sais qu'il y a eu récemment un grand colloque international au Cap, en Afrique du Sud, et c'est de là en particulier qu'est sortie cette augmentation, si je puis dire, rétrospective des victimes, jusqu'à 100 millions, c'est impressionnant.
Oui, le colloque du Cap en 1998, lors d'un anniversaire de cette pandémie, a permis de faire le point et de renouveler l'historiographie en faisant quelque chose qui se pratique davantage depuis, c'est en réunissant des virologistes et des spécialistes de sciences humaines et sociales, en particulier des historiens, et en essayant de croiser les regards pour essayer de mesurer ce qui relève de l'histoire biologique de cette maladie, d'une part, mais aussi ce qui relève d'une histoire sociale, hein, de la manière dont les sociétés sont frappées par l'épidémie.
Quoi qu'il en soit, l'arrivée en trois vagues, en somme, la seconde étant la plus dramatique, en tout cas en Europe, de la grippe espagnole, j'ai irrésistiblement pensé à la peste d'Albert Camus, avec cette montée sournoise et en même temps irrésistible de la maladie, sa propagation, son installation qui laisse les médecins impuissants, harassés. Et puis la lente décrue du mal, avec des dents de scie, des périodes d'espoir et de déception.
Oui, ce sont des vagues qui caractérisent vraiment la manière dont la grippe se signale aux populations, avec pour la France, puisque le modèle des trois vagues est à peu près le même partout, mais avec des décalages chronologiques. Donc pour la France, une première vague de printemps, qui est une grippe qui donc surgit en avril 1918 et qui se déploie jusqu'au mois de juin et qui décroît ensuite juillet 1918. Cette grippe est caractérisée par des attaques relativement bénignes. Une très grande expansion dans le monde déjà, mais une mortalité relativement bénigne, en tout cas par rapport à ce qui suivra. Et alors même qu'on croit pouvoir se débarrasser de la grippe, eh bien, elle refait surface en fait en août 1918.
En plein été, ce qui surprend, parce que la grippe d'ordinaire, ça n'est pas l'été, c'est l'hiver.
Voilà, ce qui surprend, déjà la pandémie de printemps pouvait être en contradiction avec les savoirs les plus répandus à l'époque, mais elle ressurgit à l'été, et elle ressurgit d'abord en France. Et c'est de France, semble-t-il, qu'elle a pris son expansion dans toutes les directions, et ce qui la caractérise alors, c'est sa très grande explosivité, puisque presque simultanément, dès le mois d'août, on la retrouve dans les ports, et à Boston, et en Sierra Leone, et de là, il y a une expansion générale. Et c'est cette deuxième vague, donc, qui commence en août, qui va s'étendre en septembre, et trouver son apogée en octobre, pour connaître un certain reflux au mois de novembre. C'est cette vague donc qui est la plus mortelle, la plus létale et qui cause véritablement un désastre démographique.
Et puis il y a une dernière résurgence au début de 1919.
Voilà, il y a une résurgence qui est plutôt une épidémie de traîne, comme on le dit parfois. D'ailleurs, elle va encore rejouer, semble-t-il, les années suivantes, en 1920-1921. Il devient difficile aussi de faire la part entre ce qui est du domaine des grippes saisonnières et du domaine de cette pandémie tout à fait exceptionnelle, à la virulence exceptionnelle. Néanmoins, la troisième vague, celle de l'hiver 1918-1919, est encore particulièrement meurtrière dans l'ensemble des régions touchées.
Comme en France, tout finit ou commence toujours en chanson. On a fait une chanson en 1918, à la fin de la guerre, sur la grippe espagnole. Je vais vous la faire entendre. C'est une chanson de Georges Balta, interprétée pour nous par Hervé Subiette.
Partout sévit en ce moment vraiment une fâcheuse épidémie, pas encore très bien définie, qui commence par un éternuement. Ce n'est pas terrible du reste, comme le choléra ou la peste. C'est tout de même un triste fléau qui vient du pays d'Alfonso. Ah, c'est la grippe. Ah, Espagnola. On a vu ces derniers temps des gens pris d'une terreur singulière, au moindre bruit rentrer sous terre et finalement foutre le camp. Croyez pas que s'ils prenaient la fuite, c'était par crainte des marmites. Non, ce qu'il aimait et dans cet état, ce n'est pas les Gotha ni Bertha. Ah, 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 c'est la grippe. Ah, 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 Espagnola. Les effets de cette maladie-là font tort à la chose nuptiale. Dernièrement, sur la place Pigalle, je rencontre une charmante Espagnola. Hombre torera de Castilla, je m'élance pour la banderia, mais je rate la señorita, elle conserva sa neutralita. Ah, 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 c'est la grippe. Ah, 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 Espagnola. Grâce aux braves poilus de Foch, les boches de plus en plus font camarade. Tous les autres sont en marmelade. Ludendorff en prend pour son grade. Et d'ici nous reculons sans cesse. Si mes artilleurs serrent les pièces, ce n'est pas l'avance de Mangin qui nous a fourrés dans le pétrin. Ah. Ah, ah, c'est la grippe. Ah, 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 Espagnola. Ils appellent ça la grippe espagnola. Entre nous, c'est un curieux euphémisme. Quand on fout le camp avec cet entrain-là, on appelle ça la trouilla. Voilà.
C'était donc la grippe espagnole, octobre 1918. Il faut d'abord faire observer à Anne Rasmussen que la grippa, ça s'écrit dans la chanson en un seul mot, et ça n'est pas une allusion anticipée à la grippe A, qui est le nom que désormais on donne au péril venu du Mexique ou d'ailleurs.
Oui, c'est sans doute une allusion donc au caractère dit espagnol de la grippe, et donc toute la chanson accentue ce tropisme espagnol.
Indu, nous l'avons dit, puisque la grippe venait d'ailleurs.
Voilà, c'est ce qui est intéressant aussi dans cette chanson précisément, c'est que on nous met en valeur ici, cela met un peu de gaieté dans un sujet qui n'en appelle guère pourtant, mais le fait qu'il y a des représentations populaires de cette maladie. Il y a bien sûr des représentations savantes, médicales, il y a des discours émanant des politiques sanitaires, mais il y a aussi tout un registre de savoirs, de représentations qui se diffusent sur cette pathologie et qui véhiculent eh bien, des savoirs parfois justes, des représentations de la menace, dont parlait Ronnie Broman tout à l'heure, mais aussi tout un ensemble de lieux communs qui s'avèrent souvent complètement faux à côté, et en particulier cette dénomination grippe espagnole qui a été admise comme telle par tout le monde et qui est restée, alors que dès le printemps, toutes les autorités médicales ont dit qu'en aucun cas il ne s'agissait d'une grippe espagnole.
De la même façon, aujourd'hui, le Mexique paraît avoir obtenu qu'on ne dise plus, en tout cas officiellement, grippe mexicaine, et les éleveurs de porc ont obtenu qu'on ne dise plus grippe porcine, mais grippe A.
Oui, en cela, il y a véritablement une comparaison entre les deux événements. La désignation de l'événement par ses origines géographiques. Alors, encore pour le Mexique, la grippe a-t-elle bien son origine, semble-t-il, au Mexique? En tout cas, les premiers cas sont apparus au Mexique. Pour la grippe espagnole, c'est encore plus trouble dans la mesure où finalement la grippe n'est pas du tout née en Espagne, mais les médias ont rendu compte d'une expansion de la grippe à partir de l'Espagne. Et ce, pour une raison simple, c'est que l'Espagne étant un pays neutre dans la guerre, son information était libre, n'était pas soumise à la censure, et c'est comme ça que l'on a cru finalement que la grippe était plus espagnole que venant d'autres pays.
La chanson parle d'euphémisme, c'est assez bien vu, parce que l'expression « grippe » en soi fait évidemment moins peur que d'autres termes qu'on aurait pu mettre en valeur. Le mot « grippe » est ancien. Auparavant, on parlait d'influenza, n'est-ce pas, depuis l'épidémie italienne de 1357. Et influenza, ça voulait dire l'influence des astres. Mais la notion de grippe, au départ, ça fait moins peur.
Oui, l'influenza, ça a été le terme... ancien, la grippe a donc ressurgi ou surgi au XVIe siècle, déjà un peu avant au Moyen-Âge, mais on a des traces vraiment de pandémie au XVIe siècle, puis au XVIIIe siècle. On parle alors d'influenza, notamment dans la dernière grande pandémie connue en 1918, qui est la pandémie de 1889-1890. Donc un certain nombre de ceux qui vont connaître la grippe espagnole ont déjà connu, pour les plus anciens, ont déjà connu l'influenza de 1889-90. Et ce terme s'est imposé, à tel point qu'il est même resté, puisque en langue anglaise, on continue à parler de flu, de ce diminutif pour influenza, pour caractériser la grippe, et qui désigne des circonstances plus environnementales, atmosphériques, en un temps où l'on ne connaît pas encore la nature pathogène, on n'a pas encore de référence microbiologique, et par conséquent, on s'en tient à des représentations miasmatiques et atmosphériques de la source de la maladie.
Miasmatique, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que ce serait l'environnement, ce serait l'air, l'atmosphère qui serait... empreinte du contage, c'est-à-dire de l'élément de contagion. C'est-à-dire qu'on respirerait, on absorberait, non pas ce germe, puisqu'on n'a pas encore alors de représentation que Pasteur ou Robert Koch vont nous les enseigner à la fin du XIXe siècle. Donc l'ancienne dénomination se rapporte à un système d'explication environnementale et non pas microbiologique.
Mais 1918, c'est une période où les pasteuriens règnent sur la réflexion. Quelqu'un comme le professeur Calmette, par exemple. Mais on connaît les microbes et pas les virus, on peut dire ça schématiquement ?
Oui, déjà l'épidémie de 1889 était la première épidémie post-pasteurienne, si l'on peut dire. Donc déjà, on a cherché à identifier ce que l'on appelait alors l'agent pathogène, c'est-à-dire le germe qui pouvait causer la maladie. Qu'il soit microbe, qu'il soit virus, à l'époque, on ne faisait guère de distinction entre les termes. En 1918, effectivement, ça va être un enjeu absolument capital du point de vue de la recherche médicale, d'essayer de connaître l'agent à l'œuvre dans cette pathologie, un agent grippal dont la désignation concourt plutôt à dévaluer, à minorer le risque. Parce que finalement, la grippe, c'est une maladie banale, c'est une maladie qui réapparaît presque chaque année. Et il est difficile ensuite d'assigner une gravité très particulière à l'événement si on adopte ce terme. Ça a d'ailleurs été un enjeu pour les politiques publiques d'essayer de jouer sur ce terme pour essayer de faire décroître un peu la crainte du danger.
Les politiques qui sont eux-mêmes très, très désorientés, parce qu'on voit par exemple Clémenceau en Conseil des ministres en septembre dire on n'y comprend rien à cette grippe.
Oui, il sollicitait l'aide de ses services administratifs divers et il mettait aussi en valeur un problème peut-être récurrent à l'administration française qui était les concurrences entre départements ministériels où finalement, en l'absence d'un ministère de la Santé qui n'existait pas encore...
Il y avait un secrétariat d'État, Justin Godart...
Voilà, au service de santé militaire, mais relevant du ministère de la guerre. Et par ailleurs, le ministère de l'Intérieur revendiquait aussi un certain nombre d'attributions en termes de politique d'hygiène et de santé.
Vous dites que c'est récurrent, Anne Rasmussen, vous pensez qu'aujourd'hui encore, il y a ce genre de problème de concurrence entre des départements ministériels dans l'affaire de la grippe A?
Alors aujourd'hui, c'est sans doute une des grandes différences avec le moment de la grippe espagnole, c'est l'unification de la question de la grippe, l'unification de la question de la pandémie et sans doute aussi de son traitement. Alors, soit à l'échelle nationale, dans la prise en charge, le déploiement de plans sanitaires pour faire face à la pandémie, mais aussi et surtout, ça c'est une des grandes différences avec le moment de la grippe espagnole, c'est le déploiement d'une unification à l'échelle internationale par le biais de l'Organisation mondiale de la santé, qui est une politique de cohésion donnée à cet événement qui touche tout le monde. Naturellement, en 1918, en pleine guerre, il faut le rappeler, la cohésion n'existe nullement.
Et puis il y a l'opposition entre ceux qui défendent l'idée du prophylactisme dominant et ceux qui s'attachent à la vaccination. Aujourd'hui, on est en passe de trouver un vaccin, semble-t-il. À l'époque, ce n'est pas le cas pour la grippe.
Oui, c'est une autre des différences qui est bien heureuse pour nous, contemporains de cette nouvelle pandémie. C'est l'influence des traitements, des façons possibles de remédier à cette pandémie, puisqu'aujourd'hui, nous connaissons le germe de la grippe, ce que les contemporains de 1918 appelaient le germe. Nous savons qu'il s'agit d'un virus depuis les années 30, et depuis les années de Seconde Guerre mondiale, depuis les années 40, il a été possible de préparer un vaccin, ce qui était parfaitement illusoire tant qu'on ne connaissait pas ce germe en 1918. Donc, connaissant le virus, il a été possible de préparer, d'une part, des antiviraux et, d'autre part, de répondre en termes vaccinaux, si on peut l'adapter à chaque fois à la souche présente.
Il reste cette différence écrasante que vous soulignez tout à l'heure, qui est qu'à l'époque, on était dans une guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, dans la chanson que nous avons entendue tout à l'heure, la présence de l'hostilité à l'Allemagne est très marquée. Je vais vous faire écouter un témoignage du fameux Ephraim Grenadou. Vous savez que le livre concernant Grenadou, paysan français, a été un grand succès de librairie en 1967. Et il raconte l'expérience qu'il a eue dans les tranchées en Belgique de la grippe espagnole.
Et on est venu débarquer en Belgique. Alors là, on a monté en ligne au Mont Kemmel. Et vous savez qu'en Belgique, à part le Mont Kemmel, ailleurs, vous savez que l'eau est bien, on fait un trou de 25 cm et puis l'eau vient. Alors toutes les tranchées étaient faites au-dessus de la terre avec des sacs à terre. Alors on voyait toutes les tranchées, les boyaux, tout ça. Alors dites donc, je garantis qu'il n'est resté des gars en Belgique, pas moyen de se cacher. Là, c'est en 18, là. Vous voyez, on descend du Mont Kemmel, et puis, alors à ce moment-là, c'est cette grippe espagnole qui s'est déclarée, et on nous a relevé encore là de ligne, et on nous a envoyé en quarantaine dans un coin qu'on était tout seul, quoi. Et je jure que là, il y a eu beaucoup de gars qui en sont morts et ça faisait mourir tous les gars costauds, tous les gars grands, forts, ça lui plumait. Le lendemain était mort et puis les faibles, les petits, alors je me rappelle, on lui donnait du rhum et puis on lui mettait des gouttes dans le nez, le major tous les jours, le matin du soir, des gouttes d'huile gomenolée et moi, j'en avais le trac de traper ça, et puis mon copain aussi. Enfin, je ne l'ai pas eu, ni lui.
La peur devant ce mal inconnu, ce mal terrifiant, se lit bien dans ce témoignage. Et puis la quarantaine. La quarantaine, c'est un mot très ancien, la quarantaine. On mettait les navires en quarantaine.
Oui, ça a été le grand moyen de lutte contre les épidémies, le moyen ancestral, puisque finalement, il fallait surtout... à l'horizon des pestes exotiques venues d'ailleurs, venues de loin, souvent venues de l'Est, il fallait donc essayer de couper l'arrivée de la contagion.
Le bateau autrefois, l'avion aujourd'hui, le port jadis, c'est aujourd'hui l'aéroport.
Voilà, donc, et de ce point de vue, on voit que la guerre favorisant la circulation, la globalisation actuelle connaissait déjà des prémices hein, avec cette guerre qui favorisait une circulation mondiale. Donc la quarantaine était un moyen ancestral, et puis elle était revenue en fait sur le devant de la scène à la fin du 19e siècle, précisément à cause des conquêtes du pasteurisme, dans la mesure où on mettait en valeur les germes. Par exemple, la grande épidémie redoutée au 19e siècle, c'est le choléra. Et donc, sachant que le choléra se transporte par le vibrion cholérique, il convient de mettre en place des quarantaines, des cordons sanitaires qui vont pouvoir empêcher les suspects d'arriver porteurs de leurs germes, puisqu'on peut désormais identifier ces suspects grâce aux analyses bactériologiques. Alors le problème, c'est que la grippe met en cause énormément ce modèle, parce que, eh bien là, on s'aperçoit dès la guerre, bien sûr Grenadou parle de quarantaine, mais on s'aperçoit néanmoins que ces quarantaines sont bien vaines, parce que ce virus, ou ce microbe tel qu'on l'appelle alors, il a un caractère extrêmement explosif, diffusible, il se répand partout à toute vitesse et on ne parvient pas, même en instaurant des quarantaines, véritablement à remédier à son expansion. Et c'est très troublant pour les épidémiologistes qui ont l'impression qu'il y a des foyers qui apparaissent dans tous les coins et des foyers qui semblent, ça n'est pas le cas, mais qui semblent en tout cas ne pas avoir de lien entre eux. Donc on ne voit même pas comment circule la contagion.
Aujourd'hui, ce serait semblable ou différent avec la menace de grippe A ?
Alors ce qui est semblable, c'est que dès la Première Guerre mondiale, donc dès la grippe espagnole, on renonce en fait aux quarantaines. Les pouvoirs publics, en France par exemple, mais c'est le cas généralement en Europe, renoncent aux politiques de quarantaine dans la mesure où ça ne sert à rien. Et donc il convient de ne pas faire de contrôle aux frontières, de ne pas instaurer de véritables quarantaines, et même de laisser libre la circulation dans son ensemble. C'est une politique très libérale de circulation des personnes qui va dominer. Et donc ça nous renvoie effectivement à la question qui est posée aujourd'hui, dans quelle mesure une quarantaine serait-elle efficace ? Et manifestement, les réponses des pouvoirs publics, des autorités sanitaires sont négatives. La quarantaine ne peut de toute façon, pour un virus qui se diffuse aussi spontanément, aussi rapidement, la quarantaine est de peu d'utilité.
On se contente de suivre le fil en quelque sorte d'une possible contagion et d'aider les malades à, non seulement à survivre, mais aussi à ne pas diffuser le virus.
Voilà pourquoi dans la citation de Grenadou, alors il parle peut-être un petit peu abusivement de quarantaine, mais en fait ce qu'il nous décrit sont plutôt les procédures d'isolement qui ont lieu pendant cette grippe, c'est-à-dire que une chose dont on a conscience, c'est que le danger vient du grippé. Le danger, c'est le tousseur, nous disent de nombreux textes. Et par conséquent, le danger est là, il est parmi la population, donc il n'est plus question de faire des quarantaines après coup. Mais en revanche, il est possible d'isoler ces grippés. C'est vrai dans le domaine militaire, hein, où on va essayer de prélever dans la troupe les éléments qui semblent porter la contagion. Et c'est vrai dans l'ensemble de la population, avec une politique d'hospitalisation et surtout d'isolement. Donc ce sont davantage des mesures prophylactiques de ce type, isolement et aussi désinfection avec un retour à l'action sur l'environnement qui vont s'imposer dans ce contexte particulièrement troublé.
Contexte qui est évidemment marqué par le fait de la guerre et c'est là qu'on trouve des éléments qui sont guère transposables aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, c'est cette assimilation d'un ennemi à l'autre, d'un côté l'allemand, de l'autre les microbes. Les microbes sont allemands, on lit par exemple qu'on doit dénoncer chez les Prussiens leur façon extraordinaire de semer vite et partout ces ravages.
Oui, c'est une représentation très, très classique et qui prenait forme, comme on l'a évoqué tout à l'heure, par le fait qu'on a conscience que la guerre ne pourra se gagner dans un camp comme dans l'autre que si les services de santé seront capables de maîtriser ces pathologies qui se sont avérées particulièrement dangereuses sur le plan stratégique pour les armées au XIXe siècle. Donc c'est un danger qui est tout à fait redouté et par conséquent, on crée un lien entre cet ennemi, l'ennemi dans la guerre, et l'ennemi microbien. Alors c'est un lien qui est renforcé en France dans la mesure où on est convaincu que la grippe vient de l'Est, comme toutes les grandes épidémies immémorialement.
Avec les Huns, Attila là, en forme de microbe.
Voilà, le microbe peut être répandu par l'ennemi. En plus, beaucoup de présomptions peuvent l'accréditer. Les Allemands ne sont-ils pas à l'origine de la guerre des gaz, c'est-à-dire d'une tentative d'empoisonnement des troupes ennemies. En tout cas, c'est bien sûr la représentation dominante que l'on a en France. Et par conséquent, pourquoi ne serait-il pas aussi à l'origine d'une diffusion biologique, soit volontaire, ce serait d'une marque de cruauté liée à la barbarie consubstantielle de l'ennemi, mais au-delà même du fait que l'ennemi est toujours suspecté de manquer d'hygiène et d'être dans une condition sanitaire déplorable.
Qui sont sales. Les Allemands sont sales vis en face dans la propagande.
Ils sont sales.
Ils sentent mauvais.
Et puis, on présuppose toujours, en tout cas là c'est l'information censurée qui le laisse à croire aussi, que le pays ennemi souffre beaucoup plus que le sien propre, et par conséquent, que l'Allemagne est victime bien davantage des épidémies, du typhus, de la grippe, que la France. Et par conséquent, faire des prisonniers allemands, par exemple, c'est s'exposer à faire venir le virus ou le microbe. C'est le talon d'Achille, en quelque sorte, hein, du système de défense sanitaire.
On commence à parler donc de guerre bactériologique, même si ça n'est pas le terme. Il y a la question de l'anthrax ou de la morve des chevaux.
Oui, il y a effectivement des représentations déjà de cette guerre bactériologique. On en éprouve la menace, donc on craint. Alors là aussi, on est dans une représentation très, très ancestrale. On redoutait l'empoisonnement des puits lors des épidémies de peste, on redoute aussi que l'ennemi puisse se livrer à des empoisonnements, des tranchées. Grenadou parle de la tranchée hein, comme un milieu quasiment, un milieu infectieux.
Pathogène, là, le boyau pathogène.
Voilà. Et donc, quand on récupère une tranchée aux ennemis, eh bien, on a toujours peur que la tranchée soit elle-même finalement un facteur de contamination.
Et c'est un domaine, bien sûr, où les rumeurs trouvent toutes les occasions de fleurir. Il y a une profusion de fausses nouvelles.
Oui, d'autant plus que, comme on l'a déjà suggéré, cette désignation grippe est assez préoccupante puisqu'elle semble désigner finalement une maladie assez banale. Or, on voit, et comme Grenadou le voit, cette emprise soudaine sur les troupes, et beaucoup meurent autour de soi, et on a du mal à croire finalement que la grippe ne soit qu'une grippe. Est-ce que l'on ne nous cache pas un péril plus grave, qui serait celui du typhus, celui du choléra, celui d'une peste bubonique quelconque, qui serait dissimulé en fait par des efforts de propagande aux fins de rassurer les populations.
Et puis est-ce qu'on nous donne les bons remèdes ? Grenadou parle du rhum, c'est une idée continue qui me paraît aujourd'hui absente dans la lutte contre la grippe A, mais qu'on retrouve encore à l'époque de Vichy, puisque le député de la Guadeloupe, Gratien Candas, qui avait été sous-secrétaire d'État aux colonies sous la Troisième République, s'exprime à la radio en mars 1944 pour célébrer les vertus du rhum contre la grippe, en évoquant précisément la période de la grippe dite espagnole.
Le rhum contre la grippe. Le rhum nous fait défaut. Au moment où nous en aurions le plus grand besoin pour combattre la grippe. Chacun sait en effet que le rhum est un des remèdes préconisés contre cette vilaine maladie. J'ai eu l'occasion de rappeler qu'en 1918, c'est par le rhum que le maréchal Foch ordonna qu'on combattît l'épidémie de grippe espagnole qui fit tant de ravages dans l'armée. On réquisitionna 40 000 hectos de rhum chez tous les négociants importateurs dans les ports, chez les grossistes en général. Et enfin, des ordres furent donnés pour qu'on envoyât d'urgence en France le rhum qui était disponible chez les fabricants des Antilles. Il fallait agir vite, c'est ce qu'on fit pour que les moyens de transport fussent limités. La guerre sous-marine avait détruit la plus grande partie de nos cargos et de nos paquebots. On se débrouilla et le rhum ne tarda pas à arriver dans les dépôts et aux postes avancés précédant la ligne de combat. Cet alcool de canne, dont la réputation est séculaire, ne tarda pas à avoir raison du mal, qui en s'attaquant avec violence aux voies respiratoires, finit par affaiblir rapidement tout l'organisme. La grippe n'est pas violente cet hiver, mais elle est persistante. Depuis plusieurs mois, on espère avoir à la place du rhum pur de l'eau de vie romée, qui est un alcool de vin mélangé à une petite quantité de rhum véritable.
On est donc là, Anne Rasmussen, à la fin du dernier hiver de l'occupation allemande. Cet usage du rhum contre la grippe, c'est sérieux ou c'est une calembredaine ?
C'est sérieux. En tout cas, cela dénote l'impuissance thérapeutique dans laquelle on est resté très longtemps pour faire face à cette maladie qui, en dehors des antiviraux bien tardifs que l'on connaît aujourd'hui, n'appelait quasiment aucun traitement véritablement efficace. Par conséquent, là, tous les remèdes étaient bons. Et l'usage du rhum, c'est un moyen classique, en fait, de la thérapeutique, qui relève de l'usage des stimulants. On utilise donc des alcools, de la caféine, parfois même en injection, du camphre, de l'adrénaline. Toutes sortes de remèdes d'une médecine qu'on a souvent qualifiée d'héroïque, c'est-à-dire une médecine qui pensait que plus forte était l'intervention, plus forte était la réaction suscitée et meilleur le résultat.
Ça remonte pratiquement au médecin de Molière, là.
C'est en fait une partie d'un arsenal thérapeutique, donc ça ne s'arrête pas au rhum et aux stimulants. Donc les stimulants étaient aussi de l'ordre des toniques cardiaques, mais il y avait une thérapeutique antifébrile, la quinine. Donc là, peut-être peut-on penser à une certaine efficacité.
Ça, elle remonte au 19e siècle, la quinine.
Oui, c'était une première arme pour ces maladies qui suscitaient de fortes fièvres.
C'est un des rares médicaments du 19e siècle d'ailleurs qu'on utilise encore aujourd'hui. La quinine.
On utilisait l'aspirine également, donc dans ce registre des antipyrétiques.
Ça, c'est du XXe siècle, l'aspirine est plus récente.
Oui, on en dispose en 1918. Et d'ailleurs, il y a une forte concurrence entre aspirine allemande de chez Bayer et aspirine des usines du Rhône, aspirine française.
Cocorico, encore, où le patriotisme va-t-il se nicher?
L'aspirine la plus pure. Alors, ce sont des éléments d'un arsenal ancien, effectivement, mais qui n'hésite pas à recourir aussi à la saignée, ou à des antiseptiques comme le bleu de méthylène, par exemple, ou encore à tout un ensemble de remèdes populaires pour les maladies pulmonaires, comme les bains chauds, les cataplasmes de moutarde, les bains froids à rebours, enfin, toutes sortes de remèdes classiques et anciens qui, certes, montraient quand même leur grande impuissance face à une maladie telle que la grippe.
C'est là que vraiment la différence entre 1918 et nos jours est peut-être la plus éclatante.
Sans conteste, puisque là, ayant identifié le virus, on est en mesure de lutter contre le virus. Encore ne sait-on pas exactement quelle sera l'efficacité de ces nouveaux médicaments, puisqu'il faut qu'ils soient adaptés au virus.
Il est très mutant, alors on a H1N1, H2, etc.
Voilà, c'est bien le problème de ces virus grippaux, c'est qu'ils se recombinent en permanence. Et c'est aussi un des éléments de comparaison de la grippe mexicaine, ou de la grippe A plus exactement, avec la grippe espagnole. On sait qu'il s'agit de la même souche de virus, puisque grâce aux travaux des paléovirologistes qui ont travaillé à partir de tissus conservés des victimes de 1918, on a pu reconstruire le génome, les séquences virales de l'ARN du virus, et on sait qu'il s'agissait bien en 1918 du H1N1. Et voilà pourquoi aujourd'hui on est si intéressé à se pencher aussi du côté de la grippe espagnole pour émettre des comparaisons sur la virulence de ce virus qui fait très peur.
On ne remonte pas à la grande peste de 1348, dans ce beau métier de paléo-virologue?
Si, on remonte à toutes sortes d'épisodes et jusqu'au paléolithique.
On trouve la manière dont nos ancêtres de la préhistoire ont pu mourir d'épidémies?
Oui, c'est un des sujets d'intérêt de cette recherche qui s'intéresse aux microbes et aux virus anciens, qui travaille aussi sur les animaux, le réservoir animal, et donc sur les mutations des virus. Il est sûr que pour la grippe, ça prend une actualité particulière, puisque les virologistes s'interrogent sur la virulence et sur les origines géographiques, pensant que les lumières qu'ils peuvent tirer de l'étude de 1918 pourront apporter des enseignements sur la grippe actuelle.
L'espace et le temps sont en quelque sorte, une fois de plus, tricotés ensemble par la réflexion rétrospective. La longue durée et puis la géographie, la cartographie de la circulation de ce virus. Il me semble que la vraie coupure, c'est après la Seconde Guerre mondiale, entre l'avant et l'après, du point de vue qui est le vôtre. En 1957, il y a une épidémie de grippe qui a été infiniment moins dramatique que celle de 1918, mais qui déjà a amené à rappeler ce précédent. Voici une archive qui remonte au 12 octobre 1957. Un reporter qui a décidé d'être jovial va à l'hôpital Herriot pour essayer de comprendre quelles sont les nouvelles inventions dans l'ordre du vaccin.
Eh bien, oui, la grippe est polyvalente, vous le savez, et il s'agit en l'occurrence d'un vaccin monovalent, lui, c'est-à-dire spécifiquement dirigé contre la souche dite asiatique, virus A, Singapour 57. On dirait presque un nom de parfum, n'est-ce pas?
Oui.
Eh bien, ce vaccin, malgré tout, est obtenu sur des œufs embryonnés, sentant légèrement fort, voyez-vous. Il est cependant purifié et atténué par le formol, et c'est donc en vue de ces renseignements, un mouchoir me protégeant le nez et la bouche, que je me suis rendu à l'hôpital de Guerrero entre 12h et 15h, où un cordon de police m'arrêta, puisque là, ici, à Lyon, les visites sont interdites pour le moment, et ma bonne grâce, sans doute, et la carte de la RTF me suffirent pour franchir ce cordon, et me permit d'entrer tout de suite dans le vif du sujet.
Alors, ni asthme, ni eczéma, a dit le professeur.
Absolument. Et voilà,
c'était pas plus difficile que ça, 0,5 cm3 dans chaque narine, et une petite compresse pour éviter les écoulements qui s'en suivent, mais notre patiente est maintenant immunisée, et nous allons demander tout de suite à M. le Dr Mérieux quelques précisions sur ce sérum.
Alors, voudriez-vous très simplement me dire comment vous en êtes arrivé à la conception de ce sérum?
En 1956, j'étais au congrès de Leningrad, et j'avais été frappé avec mes collègues européens de l'intérêt du sérum rouge contre la grippe, qui avait l'avantage de s'administrer par voie nasale. Sérum qui a une certaine action curative et également une action préventive qu'on a cherché à mettre en œuvre à Lyon, étant donné que la vaccination était pratiquée un peu tard. Nous espérons que cette immunisation par voie nasale permettra d'atteindre l'immunité du vaccin. Mais étant donné la rapidité extrême de l'épidémie, on peut passer le cap.
Oui, c'est ça, ce qui évite par conséquent dans les lieux très fréquentés comme les usines, les administrations, la contagion et évite aussi, ou du moins pallie sérieusement, l'absentéisme.
C'est ça, le docteur Couture qui a voulu appliquer le sérum est secondé par un de ses collègues tchèques, le docteur Chéry, qui a une grosse pratique de la sérothérapie pronasale dans les usines de Prague et que ça donne de très grands résultats.
Eh bien, pour être sûr de ne pas manquer ma prochaine émission, je vais immédiatement me soumettre à cette immunisation.
Bon, je penche la tête en arrière, je tiens la compresse sur la bouche.
Voilà, alors ça va être sous pression. L'autre narine. Voilà.
Eh bien, vous avez compris pourquoi je n'ai pas vu vous parler pendant ce temps-là. Enfin, l'essentiel a été fait. Et me voilà immunisé.
Et je pense que l'an prochain, eh bien, le vaccin sera homologué suffisamment à temps pour nous éviter l'épidémie actuelle. Ici Lyon, à vous Paris.
Quand on parle de l'absentéisme des employés et des ouvriers, que ça préoccupe les patrons, plutôt que de la mortalité, c'est assez bon signe. Anne Rasmussen.
Oui. Mais cela renvoie aussi peut-être à une inquiétude de la propre à la grippe espagnole, qui était que la grippe était très incapacitante, et au-delà même de la mortalité, elle rendait malade donc, et par conséquent elle était un facteur de désorganisation considérable dans les armées. Et c'était aussi ce lien avec la guerre, c'est que les états-majors sont convaincus qu'il est possible que la grippe soit à l'origine véritablement de la défaite si trop de soldats sont malades en même temps. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans la chanson de 1919, on nous disait que Ludendorff a signé à la grippe une responsabilité dans la défaite, ce qui a été effectivement le cas. Il a développé cet argument que la grippe, du fait de son caractère incapacitant, avait entraîné quasiment la défaite de l'Allemagne.
C'est avéré ?
Sans doute que non.
On a plus parlé ensuite du coup de poignard dans le dos. C'est évidemment une tentation de tous les généraux dans la perspective d'une défaite d'expliquer qu'il doit y avoir des moyens de dégager leurs responsabilités. C'est humain et c'est assez général. Le vaccin d'un côté, la prophylaxie néanmoins qui continue aujourd'hui comme hier. Je suis frappé de l'écho qu'on peut faire entre ce qui s'est passé au Mexique avec la fermeture de tous les lieux publics et ce qui déjà à Caen. En 1918, au Caen ou ailleurs, et plus particulièrement à Caen, a été constaté. On avait fermé les écoles, les églises, les théâtres. On avait complètement suspendu les occasions de rencontres entre les gens. Et même en novembre, on avait diminué au minimum les offices religieux à l'occasion de la Toussaint.
Oui, c'est une comparaison très pertinente entre les deux manières de traiter l'épidémie. Quelles mesures prophylactiques prendre ? Aujourd'hui, on insiste beaucoup sur ces possibilités de restreindre l'accès aux lieux publics. Il faut dire que malgré les exceptions que vous citez, néanmoins, en 1918, les pouvoirs publics ont été peu enclins à prendre des mesures de ce type, où ils ne la prenaient qu'en extrême urgence, lorsque vraiment ils ne pouvaient pas faire autrement.
Pourquoi ?
Et c'était d'ailleurs un des grands reproches qui leur était fait par les services de santé militaire. Ils trouvaient que les pouvoirs politiques, les préfets en particulier, n'étaient pas assez courageux parce qu'ils préférait rester dans une optique libérale, dans la liberté de circulation et dans la préservation de ce qu'ils appelaient le moral de la nation. Par exemple, quelque chose de très révélateur ici, c'est la circulation des permissionnaires. On a eu bien conscience, à l'automne 1918, que les permissionnaires qui circulaient des premières lignes vers l'arrière et qui revenaient vers le front étaient des vecteurs privilégiés de la grippe, dans un sens ou dans l'autre. Ils pouvaient contaminer les civils ou ils pouvaient rapporter de leur permission des germes contaminants pour les troupes. Et pourtant, malgré les demandes du service de santé militaire de suspendre momentanément les permissions, l'état-major a toujours refusé catégoriquement de suspendre les permissions en disant qu'il n'en était pas question pour le maintien du moral. On ne pouvait souffrir chez les soldats ni de se voir refuser des permissions, ni des retards dans le courrier. Ce sont deux moyens d'action véritablement sur cette forme d'adhésion de la nation à un effort de guerre qui est en cours. Et la gestion des épidémies, que l'on voit encore aujourd'hui, c'est un subtil équilibre entre des mesures de restriction, de coercition, de discipline, et en même temps, l'exercice d'une liberté qui doit permettre de contribuer au maintien du tissu social.
Il y a un dernier équilibre que l'on s'efforce de préserver et qui me paraît pouvoir être toujours actuel, c'est l'équilibre entre la vérité qu'on dit au peuple et puis les nécessaires prudences que l'on peut mettre en œuvre de peur que la panique s'installe. Évidemment, en cas de guerre, la censure est plus facile en 1918 que ce n'est le cas en période de paix comme aujourd'hui, où les nouvelles technologies font circuler beaucoup plus vite les informations et les rumeurs.
C'est un des grands enjeux de trouver cet équilibre, notamment dans l'information. Alors, en effet, en 1918, en tout cas dans les pays belligérants, ce qui n'est pas l'ensemble des pays touchés par la grippe, mais pour les pays belligérants, il n'y a pas de doute, la censure règne, et tout particulièrement en matière sanitaire, parce que l'information sanitaire est considérée entre toutes comme sensible. D'ailleurs, la grippe est désignée dans les correspondances officielles comme la maladie 11, c'est-à-dire la maladie numéro 11, hein, selon la nomenclature médicale de l'armée.
C'est crypté.
Voilà, on crypte l'information pour essayer de ne pas communiquer à l'ennemi d'abord, et puis ensuite à sa propre population, des informations trop alarmistes. Mais en même temps, il faut être suffisamment alarmiste néanmoins pour pouvoir mettre en œuvre des mesures qui peuvent s'avérer quand même contraignantes.
Ça, c'est un dilemme très actuel. On voit bien la réflexion qui se développe chez les responsables, en particulier de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, et à hauteur des différents gouvernements, sur la nécessité de prévenir sans angoisser à l'extrême.
C'est un dilemme tout à fait actuel, hein, qui porte tous ces enjeux encore actuellement, en effet.
Eh bien, c'est sur cette ressemblance ultime que nous allons clore notre conversation, Anne Rasmussen, non sans que j'ai évoqué deux de vos écrits sur ces questions, en attendant un livre synthétique. Vous avez publié deux articles importants, un dans l'ouvrage que vous avez dirigé avec Christophe Prochasson, qui s'appelle « Vrai et faux dans la Grande Guerre », paru en 2004 aux éditions de La Découverte. Votre article s'intitule « Du vrai et du faux sur la Grande Guerre bactériologique, savoir, mythes et représentations des épidémies ». Et puis un autre article qui s'intitule « Dans l'urgence et le secret », on retrouve là la question de ce qu'il faut dire ou ne pas dire, dans l'urgence et le secret, conflit et consensus autour de la grippe espagnole, 1918-1919, dans la revue que dirige Jacques Julliard, 1900, revue d'histoire intellectuelle, c'était en 2007. Merci beaucoup Anne Rasmussen. Ai-je besoin de vous dire que vous retrouverez toutes ces informations sur notre site, site à l'intérieur du site internet de France Culture, à la page Concordance des temps, et que bien sûr, vous pourrez réécouter cette émission, la télécharger, et si vous le souhaitez, réagir en ligne. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, avec la collaboration d'Agnès Chauveau, avec Meryl Moneghetti, notre stagiaire Cyril Baer, avec Patrick Molinier à la réalisation, Clément Daté à la prise de son, et pour les archivina, Véronique Jolivet.